Magazine Tumult sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Nous recevons Gérard Barbier. Gérard Barbier, bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Alors nous sommes heureux de vous recevoir. Gérard Barbier, vous êtes une personnalité arageoise particulière, à la fois politique et associatif. Vous animez l'Université pour tous depuis 1993, ainsi que l'Union fédérale des consommateurs Que choisir. Et en même temps, vous êtes une figure singulière du Parti socialiste, responsable mais pas notable. Nous avons eu envie d'en savoir un peu plus sur vos engagements et le sens de ces engagements. Nous vous interrogerons d'abord pour connaître votre vision de la vie locale et municipale, puis pour connaître votre appréciation de l'actualité nationale. Alors on commence par le plan local, Arras. D'abord, Arras et Gérard Barbier, est-ce que c'est une union déjà ancienne ou c'est une union depuis toujours ?
Pratiquement depuis toujours. Je voulais aussi vous remercier de m'avoir invité ce soir. Je suis très heureux et aussi très ému d'être là. La dernière fois que vous m'aviez invité, c'était en 2001, c'est-à-dire il y a 11 ans, dans d'autres lieux, dans d'autres contextes. Et dans... voilà, c'était à une époque aussi où là, j'étais plus politique qu'aujourd'hui, où je suis le Gérard Barbier plus associatif. Alors, moi, je suis né dans un petit village près d'Arras, à Boiry-Becquerel. Il va y avoir bientôt 64 ans. Mon père y était instituteur, secrétaire de mairie. Après des études au collège de Bapaume, je suis arrivé à l'école normale en 2004. Et depuis, je n'ai jamais quitté Arras. Voilà, donc c'est une histoire pratiquement de toujours.
Alors l'école normale à Arras, donc c'est une certaine trajectoire.
C'est une maison, oui, c'est une école où j'ai eu la chance d'y vivre pas tout à fait 40 ans, parce que disons 30 ans d'école normale et 10 ans d'IUFM. Voilà, donc j'ai vécu 30 bonnes années et 10 années pas mauvaises, mais disons c'était autre chose, quoi. Voilà. Je reste un nostalgique de l'école normale, même si cette école ne correspondait plus à la société d'aujourd'hui. Hein, mais ça c'est clair, mais j'y ai gardé d'excellents souvenirs et une multitude d'amis et de camarades.
C'est une aventure communautaire un petit peu, non ?
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, c'était une famille un petit peu de gens qui se retrouvaient à l'école normale.
Oui,
non ?
Oui,
est-ce que c'est
oui,
pas des
absolument.
Liens ?
C'était aussi un moyen d'ascension sociale. Hein. Moi, j'étais fils d'instituteur, j'étais parmi les privilégiés. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui venaient du secteur minier, hein, des parents mineurs. Il y avait beaucoup de gens qui venaient de la côte. Hein, voilà. On était des fils d'ouvriers encore en 64, mais c'était déjà la fin de cette période-là.
Hein. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes en retraite.
Je suis en retraite depuis 2004, donc ça va faire, comme le temps passe, 8 ans. Voilà.
Alors j'ai parlé d'union Gérard Barbier-Arras, est-ce que c'est une histoire d'amour ?
Ah oui, certainement, parce que à l'école normale, j'y ai exercé beaucoup de métiers, mais j'ai eu l'occasion d'y faire des études d'histoire. Et j'ai eu l'occasion aussi d'animer pendant une vingtaine d'années avec des gens comme Alain Olibos un club d'histoire locale. Et bon, j'ai donc beaucoup travaillé sur l'Artois, sur notre département et bien sûr sur Arras. C'est d'abord cette histoire d'amour avec la ville et par son histoire, et par son histoire tout court.
C'est d'abord son histoire ou c'est le choc qu'on a lorsqu'on arrive sur les places d'Arras ou c'est... Enfin, évidemment, vous êtes natif d'un village proche d'Arras, donc Arras était une ville que vous connaissiez bien dès l'enfance.
On y venait le jeudi à l'époque, on y venait faire le marché de temps en temps. Oui, c'était la ville, on montait à la ville quoi, régulièrement. Quoi. Mmh. C'était... pour un petit garçon de la campagne, c'était vraiment une belle aventure de venir sur Arras. Ouais. Donc ce choc-là, en fait, je le reçois à chaque fois que je fais visiter Arras à des amis. Quoi, voilà. Mmh. Mais moi, j'y suis. Quoi, donc, ouais. Mais par contre, l'histoire m'a beaucoup m'a beaucoup appris de cette ville, quoi. Elle m'apprend toujours, en fait.
Est-ce que vous avez été gêné à un moment donné par la relative petite taille de cette ville ? Est-ce que c'est un regret qu'il n'y ait pas, par exemple, 10 000 habitants en plus ? Vous n'avez jamais été attiré par Lille, par exemple ?
J'aime beaucoup Lille.
C'est plus que 10 000 habitants,
oui,
évidemment.
Oui. Vous avez fait mention à ma carrière. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai eu une partie de ma vie que j'ai consacrée à la politique. Et j'ai été conseiller municipal et adjoint au maire de cette ville. Et en tant qu'adjoint au maire, il m'est arrivé, puisque je m'occupais des problèmes d'environnement, de regretter un manque de population. Hein. Il y a certains projets où la ville était trop petite pour les réaliser, quoi. Bon, donc c'est parfois un peu frustrant, mais bon, je pense que c'est un excellent équilibre aujourd'hui. Bon, voilà, Lille est tout proche, Paris est tout proche grâce au TGV. Et je crois que c'est très agréable d'habiter à Arras aujourd'hui, quoi, avec cette proximité-là, quoi.
On reparlera bien sûr tout à l'heure de votre engagement municipal dans la précédente équipe, hein, et puis de votre candidature en 2001. On va parler maintenant de l'université pour tous, parce qu'aujourd'hui, bon, vous êtes le pilier de l'université pour tous et aussi de l'UFC Que Choisir, deux engagements associatifs qui me semblent fondamentaux. Alors l'université pour tous, c'est quand même déjà une ancienne histoire aussi, c'est la 18e
année.
Ça va faire 20 ans.
Nous avons lancé cette université pour tous avec des gens qui sont aujourd'hui disparus, hein, Bob Sagevin, Pierre Charbonnel, Robert Siove, voilà, Norbert François qui est toujours là, heureusement. Voilà. Donc le but à l'origine, c'était de créer un lien avec cette antenne universitaire, hein, c'est parce que Arras a d'abord accueilli une antenne universitaire de Lille. Donc c'était de faire un lien avec ces nouveaux profs qui arrivaient, et puis la population. Voilà. Donc on a eu l'idée, au niveau des élus de la ville d'Arras, de créer cette association. Voilà, donc il y a eu la première difficulté, c'était d'y trouver un nom. Alors est-ce que c'était université populaire comme beaucoup se développaient à l'époque, voilà, donc on préférait université pour tous. Et puis voilà, donc on a commencé avec une conférence de temps en temps, puis ensuite une conférence par mois, puis ensuite une conférence toutes les semaines, le vendredi, puis maintenant il y a trois conférences par semaine. Je sors d'une conférence.
C'est un rythme effréné aujourd'hui.
Oui, voilà. Oui, surtout pour ceux qui veulent suivre les trois conférences. Hein, j'essaie. Oui, c'est assez... c'est copieux, disons. Mais bon, voilà, on prend, quoi. Hein, on ne prend pas tout le menu. Voilà.
Alors, le titre de l'association et son objet est explicite. Hein, Université pour tous. L'idée, c'est l'accès au savoir universitaire pour tout le monde, qu'on soit bachelier ou pas.
Absolument. Absolument. Alors, si vous voulez, le public de cette université pour tous, c'est essentiellement des jeunes retraités, hein, comme moi. Hein. Donc, des gens qui se retrouvent avec, j'allais dire, du temps libre, mais bon, on sait tous que les retraités sont très occupés, mais avec, la liberté, avec un meilleur choix de leur temps. Et puis, c'est aussi l'occasion de revoir des choses qu'on a un peu perdu de vue, parce que bon, il y a eu toute cette période professionnelle qui nous a un peu écartés, hein, de la culture, de la lecture. Donc c'était l'occasion un peu de renouer avec la connaissance. C'est aussi l'occasion de rencontres avec des conférenciers, avec des thèmes, et puis aussi avec d'autres personnes. Et bon, je pense que on est aujourd'hui 380 inscrits à cette université pour tous, ce qui montre que ça correspond quand même à une attente, hein, peut-être pas un besoin, mais une attente, quoi. Voilà.
Alors, la plupart des conférences, je crois, se tiennent dans le cadre de l'université.
Toujours. Oui.
Est-ce que, justement, vous arrivez à faire un peu le lien avec les étudiants Parce que finalement, ils sont là quand il y a les conférences. Enfin, ils sont sur place.
Oui, c'est très difficile.
Très difficile.
C'est très difficile. Pour les, donc, en fait, le vendredi, c'est les conférences. Il y a un thème chaque vendredi et les thèmes sont très divers. Et en particulier, on y met tous les, disons, les thèmes qui relatent les problèmes de société. Quant au mardi et jeudi, ce sont des cycles de conférences. Donc, le cycle sur la littérature, le cycle sur l'histoire, parfois colle avec des questions au concours, des CAPES, etc. Et là, les étudiants, sûrement incités par leurs professeurs, viennent. Donc, on les voit essentiellement le mardi ou le jeudi, hein, sur certains cours. Mais rarement le vendredi, très rarement le vendredi. Sauf quand il y a un personnage important. Hein, voilà, donc, on a eu là, cette année, Michel Pastoureau est revenu pour nous parler un peu de la symbolique du Moyen-Âge. Là, beaucoup d'étudiants sont venus. Quoi, hein, des étudiants qui étaient en maîtrise en médiéval sont venus. Là, hein, bon. Alors, pour des occasions comme ça, on les voit. Mais bon, c'est un peu décevant parce que, bon, on les voit en littérature, en histoire, ça, c'est sûr. Mais bon, quand ils sont là, c'est... Et puis, on les voit aussi avec les conférences que nous faisons conjointement avec l'Institut Confucius. Hein, donc, en particulier, tous ces jeunes étudiants chinois qui sont là. Bon, on est très contents, nous, de voir les jeunes là. Quoi. Bon, en plus, ça baisse le niveau d'âge de l'amphi. Et puis, bon, c'est bien aussi qu'il y a cette... ce mélange des générations, c'est très très bien. Et les professeurs adorent, hein, adorent ça.
Alors j'ai assisté moi par exemple à quelques conférences du cycle économie.
Oui,
vu ça. C'est quand même des choses finalement assez ardues. Enfin bon, le choix des conférenciers est fait, je suppose, de telle manière à ce que les exposés soient vivants. On voit les gens extrêmement, comment dire, sérieux.
Oui.
Prenant des notes. Après, il y a une série de questions qui assaillent, entre guillemets, le conférencier. Les gens ne s'en laissent pas compter.
Absolument. Bon, là, le cycle économie, bon, c'est un cycle qui a beaucoup de succès. Hein. Bon, il fait suite, ce cycle de cette année, à un autre cycle qui a été mené de main de maître par André Lefranc. Les gens sont très friands du cycle économie parce que, bon, depuis quand même 5 ans, nous vivons une crise. Hein. Et puis, ils viennent aussi, en assistant à ces crises, avoir des outils pour mieux comprendre, hein, notre quotidien et la crise que nous vivons aujourd'hui, si vous voulez. Alors, c'est pour ça que cette année, avec Laurent Cordonnier, on a fait le choix de revisiter les grands économistes, les grandes pensées économistes. Et c'est surtout aussi au travers de ces grands économistes et de leurs pensées qu'on revisite aussi notre situation d'aujourd'hui.
Alors justement, sur le sens de votre engagement dans l'Université pour tous, est-ce que c'est, comment dire, essayer d'avoir et de donner en même temps une compréhension du monde dans lequel on vit? Est-ce que c'est la rencontre? Est-ce que c'est la confrontation des idées? Et le fait de se frotter à des disciplines qu'on ne connaît pas, de rencontrer des conférenciers qui sont, bon, qu'on n'aurait pas l'occasion de voir par ailleurs, c'est...
Oui,
pour
enfin,
vous, personnellement.
Je sais pas si la prétention est aussi haute, hein, mais je pense qu'en effet, oui, c'est donner 3 moments dans la semaine, 3 moments de réflexion, hein, en fait, c'est 3 fois 2 heures où on peut revisiter Proust, où on peut comprendre Keynes, où on peut, voilà, quoi.
Et pour vous personnellement, quelle est la chose qui, s'il y en avait une à mettre en avant, qui fait que vous êtes enthousiaste pour cette...
Bah, écoutez, je ne sais pas, moi j'étais donc 40 ans à l'école normale, je suis donc issu de cette école, mon métier ça a été essayer d'enseigner, de faire passer, j'essaie de continuer cette mission, excusez-moi du mot un peu, avec cette association, si vous voulez. Voilà, et puis je trouve que c'est un... Vous parliez de l'Université pour tous, tout à l'heure on va parler de l'UFC Que Choisir. Ces deux associations remplissent ma vie aujourd'hui, quoi, hein, depuis 2004, depuis que je suis retraité. Je vous avoue que voilà, je suis très occupé avec ces deux associations.
Alors on va parler dans un instant de Que Choisir, mais la règle de nos entretiens, le dernier invité c'était François Desmazières, c'est la même règle.
Que j'ai écouté avec plaisir.
La règle c'est l'invité amène sa musique, ses choix musicaux. Alors oui. Quel est votre premier choix?
Écoutez, en plus ça c'est un embarras ça, hein, parce que ça a pour moi été une réelle difficulté. Alors le premier choix, c'est une petite chanson que j'ai rencontrée une nuit d'insomnie sur France Inter. C'était un groupe, je pense que ce sont des jeunes là qui ont créé un groupe qui s'appelle Tournée Générale, et je les ai trouvés très sympas et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils font. Alors j'ai choisi dans leur dernier album le morceau numéro 3, Demain c'est quand ? Une belle question.
Je traverse la vie avec mon sac et ma guitare. J'ai des amis dans toutes les villes et leurs satanés comptoirs. Je les fusille avec tous les oiseaux du C'est pas trop tard. J'ai tant de lits que je ne sais où me vautrer chaque soir. Sortir de son trou, aller faire un tour ailleurs, sans jamais s'arrêter de mordre la poussière. Sourire après tout, écouter battre son cœur. La beauté ne connaît pas de frontières. Retrouver le simple goût de nos anciennes valeurs, décrocher la routine et s'en aller prendre l'air, puis retomber à genoux devant la beauté des fleurs et dépoussiérer ses chimères. Je traverse la vie avec mon sac et ma guitare. J'ai des amis dans toutes les villes et leurs satanés comptoirs. Je les fusille avec.
J'ai mis un peu de temps à m'apercevoir, mais grâce à la remarque de Gérard Barbier, que en fait je me suis trompé dans le numéro. Et voilà, donc le 3, c'est celui-ci.
Oh, 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 demain c'est quand ? C'est quand la vie, c'est quand qu'on repart à plein temps. Demain je prends la route, demain je mets les voiles. Le chemin de mes doutes est mon unique étoile. Demain je prends la vie dans le sens opposé. Je coupe les crédits à mes pires idées.
Oh, oh, oh. Demain c'est quand ? C'est quand la vie, c'est quand qu'on repart à plein temps.
Demain je prends le train qui remet sur les rails. Vu le nombre de chrétiens, il sera pas de grande taille. Demain je prends ta main et t'emmène signer le bail. De 40 ans de cousin à s'aimer sur la paille.
Oh, 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 demain c'est quand ? C'est quand la vie, c'est quand qu'on repart à plein temps.
Il pleut, et si demain je cale, je resterai grincheux du côté d'Épinal. Et puis je suis heureux et je suis pas si mal. Dans ma vie de folk, cherchant son idéal. Oh, 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 demain c'est quand?
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9. Demain c'est quand?
Oui.
Tournée générale, un choix musical de Gérard Barbier qui est avec nous.
Merci.
Alors on a parlé de votre engagement dans l'Université pour tous. Le deuxième grand engagement associatif qui vous mobilise beaucoup, c'est l'univers.
C'est l'UFC que choisir. L'UFC,
ça commence par un U aussi. Oui, oui. Voilà, UFC que choisir, Union fédérale des consommateurs.
Voilà, alors la rencontre a eu lieu en 76.
Ça, c'est très ancien.
Voilà, donc ça nous fait 36 ans. 36 ans, j'ai toujours du mal, je calcule toujours. Voilà, donc j'ai dit tout à l'heure que mon père était instituteur à Boiry-Becquerel. Et chez lui, il y avait deux mensuels qui arrivaient. C'était l'École libératrice, c'était un journal syndical, et puis Que choisir. Voilà, donc j'ai rencontré Que choisir chez mes parents. Et puis en 76, l'UFC a décidé de mettre en place un réseau d'associations locales qui n'existait pas à l'époque. Et puis les abonnés à Que choisir ont été conviés à une réunion à Arras. Mes parents ne pouvaient pas y aller, donc j'y suis allé. À l'issue de cette réunion, je suis resté avec 7 ou 8 autres personnes. Nous étions volontaires pour créer une association. Voilà. Donc ça fait 36 ans que ça dure. Et je ne regrette toujours pas.
Ouais. C'était quand même un engagement un petit peu d'avant-garde, ce point de vue de défense des consommateurs. Faire émerger un nouvel acteur de la vie sociale, non ?
Absolument. C'était complètement d'avant-garde à cette époque-là. Ça, c'est clair. La société de consommation commençait à prendre de sérieux coups, quand même. Il y a eu le premier choc pétrolier, il y a eu... Mais je suis absolument... mes études d'histoire, mes études tout court m'avaient montré que c'était là un secteur qui pouvait être innovant. Et bon, je vous dis, en plus, je voyais mes parents qui étaient très attachés à toutes ces merveilles là qui arrivaient, alors qu'eux prenaient toujours beaucoup de distance. Donc j'ai été confronté à ces choix, à ces premiers tests, à ces premières, à ces premiers grands dossiers sur la qualité de l'eau. Je me souviens en 76 grande enquête qu'on avait fait sur la qualité des lessives. À l'époque, on passait pour des fous, quoi, des empêcheurs de tourner en rond, des poils à gratter. Voilà, donc dire que les lessives pouvaient polluer les rivières en 76, c'était osé, quoi. C'était osé.
Alors le fonctionnement aujourd'hui de l'UFC Que choisir à Arras, c'est traiter des dossiers de personnes qui viennent.
Alors aujourd'hui, l'UFC Arras, c'est 1800 adhérents.
1800 adhérents.
1800 adhérents. L'Assemblée générale a lieu demain. Et puis, c'est à peu près 60, c'est pas à peu près, c'est 65 bénévoles. Voilà. Alors, nous avons 6 domaines stratégiques, hein, puisque le premier, c'est bien entendu l'accueil, et ça, on l'a depuis 36 ans, c'est l'accueil des consommateurs, voilà, qui viennent. Maintenant, ils peuvent venir nous voir sur Arras du lundi au samedi midi. Ensuite, on les accueille, on les écoute surtout, on essaie de les aiguiller, hein, pour on répond à leurs questions, on essaie de les aider quand c'est possible, quand c'est pas trop tard. Ensuite, il y a le traitement des litiges, c'est la deuxième action de notre association. Alors là, il nous arrive de prendre en charge des dossiers. Hein, le consommateur, lorsqu'il a épuisé ses interventions, il nous confie son dossier. L'an dernier, ça a été à peu près 900 dossiers de litige. Ça prend beaucoup de monde et ça prend beaucoup de temps. Ensuite, notre troisième métier, c'est les enquêtes. Et là, c'est un lien direct avec notre journal, hein, notre journal qui est comme votre radio, indépendant et libre. Hein, donc, bien sûr, on n'a pas le droit à la publicité. On vit grâce aux abonnés. Et puis aussi à l'aide des bénévoles, hein, qui font des relevés de prix, qui font des enquêtes et qui alimentent comme ça certains dossiers chaque mois dans Que Choisir. La quatrième mission, c'est tout ce qui concerne les représentations des consommateurs. Dans le cadre de cette société civile, on est de plus en plus sollicité pour représenter les consommateurs, les usagers dans une kyrielle d'instances locales, communautaires, départementales. Hein. Là, actuellement, on assume à peu près une quarantaine de représentations dans tous les secteurs, de l'environnement à la santé, etc. C'est aussi un très gros travail. Voilà, et puis la dernière mission, c'est essayer aussi de communiquer, hein, de répondre aussi aux attentes des médias lorsqu'ils nous sollicitent. Je sais qu'il y a un bénévole qui fait une émission de temps en temps ici sur PFM.
Ouais, une chronique sur PFM, oui.
Voilà, et puis donc on essaie de répondre aux demandes, on fait des communiqués de presse régulièrement, on essaie de relayer aussi le travail de notre fédération et de notre journal. Voilà, donc on a de quoi faire.
Alors j'ai été étonné tout à l'heure par l'annonce du chiffre, oui, le nombre d'adhérents de votre association localement, mais je sais que j'avais été étonné déjà par le nombre de lecteurs de la revue au niveau national. Oui.
Il y a à peu près 420 000 abonnés et 80 000 lecteurs qui achètent en kiosque. Hein, Que Choisir tire à 500 000 exemplaires.
Mais alors, c'est la presse, c'est la plus grande. Est-ce qu'attendez,
500 000 tous les mois. Oui, c'est important, mais c'est juste. Hein. Nous avons perdu à peu près 80 000 abonnés depuis 3 ans. Par contre, nous avons gagné à peu près 80 000 abonnés à Que Choisir en ligne. Hein. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a eu là un problème de vase communicant ? C'est pas sûr. Hein, mais les chiffres correspondent, hein, à peu près. Hein. Mais notre budget est un peu juste, hein, parce qu'un abonné papier est quand même un peu plus rentable pour nous qu'un abonné en ligne. Quoi, hein, voilà.
Eh ben, on va écouter le deuxième choix musical.
Oui, alors là aussi, c'est une petite chanson de rien du tout. C'est une petite chanson de rien du tout de Mickey 3D qui ne doit pas être très connue, mais que j'aime beaucoup. Voilà, on en reparle après.
Une jolie petite fille qui marchait dans la rue, que je ne connaissais pas. Je lui dis, petite fille, qu'est-ce que tu fais dans ma rue? Je ne te connais pas. Elle me dit,
je viens juste m'installer ici, et si ça te plaît pas, tu peux me faire la gueule ou me pourrir la vie, mais je ne partirai pas.
jolie petite fille qui marchait dans la rue, que je ne connaissais pas, m'a fait prendre conscience en deux, trois mots, pas plus, que je n'existais pas. Cette jolie petite fille qui marchait dans la rue, je ne l'oublierai pas. J'ai voulu la revoir, mais je n'ai jamais pu, car elle n'habite pas là. On aurait pourtant pu être amis, aller danser au bal, se croiser le matin, se voir l'après-midi, se balader sous les étoiles. On pourrait pourtant tous être amis, un peu comme les fourmis, mais les chansons comme ça, toujours ils se méfient. Alors la guerre, ça m'étonne pas. Ah, 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 ah.
Ça ne m'étonne pas, Mickey 3D, votre choix musical, Gérard Barbier. Pourquoi Mickey 3D?
Ah, parce
et cette chanson en plus.
J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Je regrette beaucoup de ne plus l'entendre. Et puis, alors, pourquoi cette chanson? Bon, ben, parce que, encore une fois, c'est le genre de petite chanson sans prétention que j'aime beaucoup. Et puis, ça pose un problème de gens qui ne communiquent pas. Et puis, c'est cette petite fille, moi, j'ai eu deux filles. Et parfois, je me dis, est-ce que je me suis bien occupé de mes filles? Est-ce que je ne l'ai pas laissé partir? Est-ce que j'ai tout dit? Non, bien sûr. Voilà, donc c'est aussi je pense aussi à ce que j'ai fait, je pense aussi à ma vie, voilà.
Alors Gérard Barbier, on a parlé de votre engagement associatif avec l'Université pour tous, l'UFC que choisir. On va parler maintenant de votre engagement politique. Vous êtes un socialiste, une figure de la famille socialiste. Socialiste, on a l'impression depuis toujours.
Oui. Oui, bah écoutez, avant je plaisantais là-dessus, mon père l'était, mon grand-père l'était, mon arrière-grand-père l'était. Alors bon, quatre quartiers de noblesse, pour la noblesse, il fallait quatre quartiers. Je pense, je suis toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 2004, c'est-à-dire qui a été une année importante parce que j'ai pris ma retraite professionnelle, mais j'ai voulu aussi prendre ma retraite politique. Je pense que j'avais fait mon temps et puis j'avais envie aussi de m'investir dans les deux associations dont on vient de parler. Voilà, donc, mais avant 2004, j'ai consacré une trentaine d'années de ma vie au Parti Socialiste, peu à la ville d'Arras.
On va en parler. Bon, tout à l'heure, au début de l'émission, j'ai dit responsable, mais pas notable, parce que ça décrit un peu votre trajectoire, si je ne me trompe. Hein. Vous avez pris des responsabilités dans la famille socialiste, vous étiez secrétaire de section, vous étiez candidat au tête de liste
en 2001
ouais. Pour les municipales à Arras. Et je dis pas notable parce que même si vous avez été adjoint à l'environnement, au maire d'Arras,
aux travaux, à la circulation,
avec Léon Fatou, vous n'êtes jamais devenu en fait un politique professionnel.
Non.
C'est un choix.
Oui.
C'est rare quand même.
J'ai toujours voulu faire de la politique parce que en fait j'ai vu dans ma famille, mon père, mes oncles en faisaient, pas toujours dans le même parti, mais j'ai jamais voulu, et ça c'est une promesse que j'ai faite à mon père, je n'ai jamais voulu en vivre, voilà, parce que je tenais aussi à ma liberté, à mon indépendance. Voilà, donc j'ai fait de la politique en dehors de ma vie familiale, en dehors de mon travail. Et voilà. Et puis j'ai eu la chance aussi d'être dans cette école normale avec des collègues vraiment extraordinaires. Quoi. Je leur rends hommage parce que y a la solidarité, leur solidarité a fait que de temps en temps je pouvais faire de la politique. Quoi. Voilà.
Alors vous avez connu les dernières années Guy Mollet. Vous avez bien connu la gestion.
Oui, je suis arrivé en 1975 à section d'Arras et j'ai côtoyé Guy Mollet un an.
Voilà. Vous avez bien connu les années Léon Fatou.
Oui.
Vous, d'une certaine manière, au Parti Socialiste, vous étiez un petit peu à part quand même.
J'étais minoritaire.
Voilà, c'était la minorité rocardienne.
Oui.
Alors quand on dit rocardien, aujourd'hui, peut-être on a une image un peu fausse de ce que c'était à l'époque. Est-ce qu'il y a une continuité, par exemple?
Bah, si vous voulez, à l'époque, avant d'arriver en 1975 au Parti Socialiste, j'ai côtoyé le PSU. Hein. Bon, le PSU, c'était un peu, à cette époque-là, le parti innovant. Hein, c'était un parti bouillonnant d'idées, avec des gens. Bon, mais c'était un peu la pagaille. Quoi. Donc, à un moment donné, Michel Rocard a décidé... De venir au Parti Socialiste.
Oui, parce qu'il dirigeait le PSU.
Donc hein. Il y a 1500 personnes. Mais pas tout le PSU, une partie du PSU restait encore une dizaine d'années. Mais j'ai fait ce choix-là. En plus, j'étais parti au PSU un petit peu pour contrarier mon père, quoi, qui lui était SFIO, vieil SFIO, etc. Bon, donc.
Mais le PSU,
à 18 ans, on est plutôt en opposition avec son père, donc au PSU, j'étais pas très loin, mais voilà.
Ouais. Alors le PSU, quand même, une de ses marques de fabrique, c'était une certaine révolte par rapport à la position du Parti Socialiste en ce qui concerne la guerre d'Algérie.
Entre autres.
Où était mouillé quand même Guy Mollet.
Donc arrivé au PSU, dans une section très SFIO, très traditionnelle, comme celle qui était à Arras, ça n'a pas été gai tous les jours, quoi. Mmh. Voilà. Bon, et puis ça, il y avait la grande idée de l'autogestion, de voilà. Bon, ça c'était bon, et puis voilà quoi. C'était moi j'ai suivi aussi un homme. Hein, j'ai toujours même s'il est aussi aujourd'hui un peu vieillissant, mais j'ai toujours beaucoup d'admiration pour Michel Rocard. C'est vraiment lui qui m'a donné. Si j'ai fait de la politique. Je ne sais pas si je dois dire à cause ou grâce à lui, mais certainement. C'est un monsieur qui a beaucoup compté dans mes choix. Hein. Mm-hmm. Voilà. Et, par exemple, j'ai passé des week-ends entiers à Paris, dans des banlieues, dans des coins inouïs. Parce que lui, il faisait des formations. Hein. Donc, on parlait de l'université pour tous, mais moi, pendant 20 ans, je suivais une fois ou deux par trimestre des formations qu'il initiait. Et puis, c'était des moments extraordinaires. Quoi. C'était des moments extraordinaires. Et j'ai rencontré des tas de gens. J'ai côtoyé régulièrement Stéphane Hessel, par exemple, dans ses formations. Quoi. Il avait réussi à voir là tout un groupe de gens extraordinaires, Patrick Vivray, enfin, des gens que j'ai revus après. Quoi.
Rétrospectivement, comment vous voyez ces années, surtout les années Léon Fatou, disons, de la gestion Léon Fatou, avec la place, il faut mettre les deux en balance, la place que vous y occupiez, adjoint à l'environnement, aux travaux
Oui, je pense avoir été l'un des tout premiers adjoints à l'environnement de la ville d'Arras. Hein, là aussi, c'était... je pense qu'il y a eu...
Ça, ça s'est fait naturellement
Oui. Ah, naturellement c'était pas facile. Hein. En plus, j'ai toujours été dans l'opposition. Hein. Vous savez, dans le Parti Socialiste, c'est un parti où il y a des courants. Donc, moi, j'étais dans le courant rocardien, donc dans la minorité. Quoi. Bon, voilà, hein. Mais bon, j'ai réussi à faire des petites choses quand même. Hein. Bon, voilà. Alors, cette période était à la fois difficile, mais très enrichissante.
Bon, difficile parce que bon, il fallait toujours lutter pour faire sa place. Hein, bon, mais enrichissante parce que bon, par exemple, on a mis en place ben, les premiers tri sélectifs. On a, c'est une période où on a réussi aussi à innover. Voilà. Donc et ça, c'était on découvrait quoi. Je pense que je suis pas sûr qu'il y ait eu un adjoint à l'environnement avant. Hein, on a créé aussi cette mission. Donc, tout était à faire. Tout était à faire.
Alors, vous avez été tête de liste, donc on disait.
En 2001.
En oui. 2001, aux élections municipales pour la. Pour
là
la
non
gauche.
Plus, ça n'a pas été facile.
Ouais. Et bon, vous avez été battu par Jean-Marie Vollerenberg, qui a fait un très bon score au deuxième oui. tour, hein, 56%, je crois. Oui. Hein, bon. Là aussi, est-ce que vous avez des regrets sur cette campagne?
J'en ai eu beaucoup, hein, parce que en fait, on avait énormément travaillé. Je me souviens, les deux années qui ont précédé 2001, on avait mis en place, un peu la méthode Rocard, hein, un réseau absolument infernal. Et puis alors là, j'étais très heureux que les copains s'étaient beaucoup investis. Hein, bon, des gens comme Albert Richer et bien d'autres, mais je pense à lui parce qu'il est hélas aujourd'hui disparu. Et on avait fait un travail énorme. Voilà. Bon, donc... alors, bon, oui, on a beaucoup de regrets parce qu'il y avait une équipe, il y a eu un travail, et puis je me suis dit, bon, en fait, je n'étais pas le candidat, quoi. Je suppose que je n'avais pas le charisme pour porter ça. Donc, j'ai regretté. Bon, mais d'un autre côté, bon, il y a des éléments qui avaient été abordés lors de ce programme, parce que, hein, on avait un gros, très gros programme, quoi, bon, que les Arangeois n'ont sûrement pas lu. Mais il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été repris, hein, par les équipes de M. Vollerenberg. Et ça m'a fait, quelque part, ça m'a fait un peu plaisir. Quoi, tu vois, mmh. hein, bon, par exemple, tout ce dossier, toutes ces idées sur le quartier historique, le quartier culturel. Hein,
le
quartier des arts, tout ça. Bon, on l'avait initié, quoi, hein, tout ce travail de la rue aux jours. On s'est arc-bouté parce qu'on voulait absolument garder les cinémas en centre-ville. Là, on s'est battu, si j'ai eu... Bon. Mmh. Et parce que je pensais que c'était une bêtise d'aller faire des complexes à l'extérieur des villes, parce que bon, moi j'y allais dans les complexes à l'extérieur et puis je revenais d'Ardard à Arras parce que pour manger une petite croûte et des choses comme ça. Et j'ai toujours pensé que c'était une erreur de faire ça, quoi. Alors je sais qu'on s'est beaucoup battu parce que le choix n'était pas celui-là et puis en fait il s'est fait, donc je suis très content. Voilà, donc oui, j'étais déçu. Bon, oui, j'ai eu une année un peu j'ai déprimé un peu, quoi.
Mais vous
j'étais
pensez que
déçu
c'est votre...
de ne pas avoir j'ai cru que j'étais pas à la hauteur pour les copains, quoi. Voilà, je pense que j'avais pas le charisme qu'il fallait, et puis on avait beaucoup travaillé pour Arras et on avait un peu oublié les Arrajois, quoi. Voilà, donc je pense que... voilà. Bon, voilà, puis bon, c'est tout, les regrets, je vous dis, ça a été une année un peu difficile. Bon, il faut se remettre quand même, hein, parce qu'on investit totalement, et puis qu'on échoue, et puis que derrière, il y a une équipe, quoi, c'est ça, quoi. Bah, il faut assumer le coup, quoi. Voilà.
Comment vous voyez la gestion devant Vollerenberg à la tête d'Arras? Trois mandats, enfin, on va parler de son successeur, bien sûr.
Oui, oui, bien sûr. Bah, écoutez, je pense que les trois mandats de M. Vollerenberg, qui ont suivi cinq mandats de l'ère socialiste, le constat, il y a des points positifs, il y a des points qui le sont moins, quoi. Hein, bon, j'ai pas un avis tout à fait négatif, quoi, hein. Par exemple tout ce qu'il a fait dans le centre-ville, la mise en lumière, bon, c'était pas dans nos priorités, lui ça l'a été. Bon, aujourd'hui je vois que c'est une excellente chose et que c'est apprécié par les Arrajois et puis tous les touristes qui viennent et qui ont ce choc aussi des places, et des places en plus illuminées, quoi. Je pense que c'est une excellente chose. Bon. Donc, moi, je suis pas... En plus, je suis un bon perdant. Hein, y a pas, bon, je reconnais ce qui est bien. Bon,
comme ce que je viens de dire. Bon, on a un petit peu discuté avec des vieux amis de la politique culturelle. Bon, là, apparemment, elle va être remise à plat, elle va être considérée. Je pense que c'est un secteur où Arras doit être leader, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Bon, voilà. Peut-être qu'elle n'a pas été assez. Bon, si je dois faire une critique, il faut en faire, parce que sinon, je vais passer pour un suspect. bon, j'aime pas trop l'entrée nord d'Arras, qui est la grande entrée princière. Bon, au début, ça m'a un peu choqué, mais bon, voilà, il paraît que ça va s'arranger. Voilà, je pense qu'il fallait mettre le paquet là, hein, parce que... mais bon. Voilà.
Comment vous avez vu cet épisode de la succession de Jean-Marie Vollerenberg, bon, sa démission de la présidence de la communauté urbaine. Bon, il devient sénateur, il a eu l'assurance de devenir sénateur dans la majorité présidentielle, remplacement par Rapneau de l'UMP, puis démission du poste de maire, et puis c'est le Turc du Modem qui prend la suite. Et puis il y a quelqu'un d'oublié au passage, c'est François Desmazières, qui se présente d'ailleurs. Comment vous avez vécu un peu tout ça?
Bah oui, bon, sincèrement, j'étais un peu surpris, même si j'avais entendu des bruits de couloir. Hein. Bon, j'ai écouté l'émission avec François Desmazières il y a quelques temps, donc je sais que vous avez beaucoup parlé de ça. Bon, alors est-ce que tout ça c'est lié au sénatorial, comme ça a été évoqué? J'en sais rien en fait. Hein. Bon, d'un autre côté, la succession, on reproche parfois. Aux hommes politiques de ne pas préparer leur succession. Hein. Bon, c'est le gros reproche qui a été fait à Léon Fatou, bon, d'avoir fait un mandat de trop et pas avoir préparé sa succession, bon, ce qui est un reproche pas tout à fait juste. Bon, là, on ne peut pas reprocher de l'avoir fait. Quoi. Bon, alors, c'est bien joué. Quoi, les deux successeurs choisis seront en position lors des prochains combats. Bon, ça, c'est une... Je pense que c'est bien joué. Bon, alors est-ce que s'il y a eu des tractations, j'en sais rien et je vous avoue que je m'en fous, quoi. C'est pas mon problème, quoi. C'est le problème des gens qui ont fait les tractations, c'est pas le mien.
Et la trajectoire de François Desmazières, vous la voyez comment?
Écoutez, moi j'ai appris à connaître François Desmazières parce que j'ai fait la campagne de Catherine Génisson, j'étais son directeur de campagne lors des son deuxième mandat. Et elle avait en face de lui un petit jeune qui venait d'arriver, qui s'appelait François Desmazières. Donc j'ai appris à connaître François Desmazières lors d'une campagne où on était opposés, quoi. Et je me suis aperçu que c'était quelqu'un de bien. Voilà. On peut aussi jauger un adversaire dans la bataille, quoi. C'est quelqu'un de bien parce qu'il a toujours été réglo. C'était un adversaire pas facile, droit dans ses bottes, qui nous a... la campagne n'a pas été facile, il nous a mené la vie dure, mais il l'a fait avec une grande courtoisie, une grande correction. Voilà. Donc on a essayé aussi de rendre la courtoisie et la correction. Et puis, moi, j'ai toujours... on est toujours assez content de se rencontrer, de se serrer la main, si vous voulez. Voilà.
Une dernière question sur la vie locale, enfin un peu plus départementale, on va dire, oui. Ou un peu plus. Est-ce que ça fait mal d'être au PS du Pas-de-Calais aujourd'hui? Est-ce que c'est gênant? Est-ce que ça...
Il y a des moments c'est un peu délicat. Hein, bon, il faut répondre aux colibés. Bon, voilà. Bon, bien sûr. Hein, quand... Bon, il y a certaines affaires dans certains secteurs. Bon, puis en plus, Catherine, qui est ma compagne, est aujourd'hui un peu à la tête de cette fédération. Donc, elle est en pole position pour prendre tous les coups. Bon, c'est pas mon rôle, mais mon rôle est d'essayer de l'aider, hein, à traverser ces tourmentes. Bon, bah oui, bien sûr. Hein, ça reste un très grand parti. Avec beaucoup, beaucoup de monde dans ce parti, dont énormément d'élus. Et bon, peut-être que... Voilà, donc il y a certains dérapages, il y a certaines personnes peut-être qui ont oublié aussi ce qu'ils devaient, ce qu'était de faire la politique. Bon, voilà, donc il faut assumer, quoi. Il faut essayer de...
Voilà. Et puis alors ce Pas-de-Calais, comme le Nord, comme d'autres, ce sont de très très vieilles fédérations, quoi. Je vous ai parlé de mon père, de mon grand-père, bon, ça remonte loin, quoi. Donc il y a des habitudes, il y a parfois de mauvaises habitudes qui sont prises. Et c'est très très difficile de corriger ça. Bon, à section d'Arras, bon, on a cette chance. Même si j'ai dit tout à l'heure que c'était pas toujours facile, mais il y a toujours eu moyen de s'exprimer. Hein, même les minoritaires, à qui on faisait aucun cadeau, mais ils étaient là, et moi j'ai pu à un moment donné être élu, à une voix près, mais être élu quand même secrétaire de la section d'Arras, quoi. Donc avec un peu de volonté, on y arrivait, quoi. Mais il y a des sections encore, hein, dans certains secteurs, en particulier dans certains secteurs du pays minier, où il n'y a pas cette diversité là, quoi, hein, où il y a on appelle ça des baronnies, quoi. Et bon, c'est d'un autre temps, mais ça passera.
Alors Gérard Barbier, votre choix musical suivant, puis après il nous restera un petit peu de temps pour parler un peu de l'actualité nationale.
C'est une voix, là c'est pas une petite chanson, c'est une voix.
Il y avait des chansons, les hommes venaient y boire et rêver. Dans la maison sur le port où les filles riaient fort, où le vent faisait chanter, chanter, chanter. Les pêcheurs vous le diront, ils y venaient sans façon avant de partir tirer leur filet. Ils venaient se réchauffer près de nous, dans la maison sur le port. Les volets se sont rouverts et depuis, les rires des filles se sont envolés. Sous un tube de néon, un fonctionnaire à lorgnon est perdu dans ses papiers, vieux papiers. Où sont les rideaux à fleurs et les lampes de couleur, les cheveux de Maria, ses bras nus. On dirait que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port. Pourtant je suis revenu une nuit, j'avais cru qu'on y chantait comme avant. Mais les couples qui dansaient n'étaient plus rien à présent que les ombres du passé, du passé. Vainement je recherchais cette fille que j'étais, qui savait aussi chanter et aimer. J'ai bien vu que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port. Sur mes 20 ans que je pleure, bien souvent avec les filles j'ai pleuré. Mais on aurait pu laisser nos chansons dormir en paix, nos chansons et nos amours, nos amours. Je l'ai dit à Maria et aux filles de là-bas, allons boire pour oublier, oublier. Puisque notre cœur est mort et bien mort dans la maison sur le port. Puisque notre cœur est mort et bien mort.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Dans la maison sur le port, un choix musical de Gérard Barbier qui est avec nous pour cette émission. Alors pourquoi San Severino ?
Ah ben parce que c'est ce morceau, c'était une atmosphère, c'est une voix, voilà. Bon, voilà, j'aime ces chansons qui recréent à quelque chose, et je pense que il fait très bien les choses, en particulier cette chanson.
Alors on arrive dans la dernière ligne droite de cette émission. On va parler du niveau national. On aurait pu y consacrer plus de temps, malheureusement, on a parlé beaucoup de choses. Alors, votre philosophie politique, finalement, on en a déjà parlé, la filiation PSU, PS, Michel Rocard. Entrons dans l'actualité. Bon, on est dans une période électorale. Comment vous la sentez, cette campagne électorale présidentielle ?
Je pense la ressentir comme une grande majorité de Français aujourd'hui. Bien entendu, il y a des attentes. Et bien entendu, ces attentes sont pas toujours assumées. Bon, moi, vous savez d'où je viens, vous savez où je suis. Même si je suis plus un actif, je suis toujours membre du Parti socialiste. J'ai donc participé aux primaires. La personne qui a été élue n'était pas celle que j'avais choisie aux primaires. Comme quoi, quand on est minoritaire, on le reste toute sa vie.
On peut savoir quel était votre...
J'avais milité, voté pour Martine Aubry.
D'accord. Voilà.
Bon, qui était un peu d'une part parce qu'il y avait une solidarité régionale. Et puis bon, voilà, c'est une dame qui en 2001 nous a beaucoup aidés, donc ça je voulais la remercier. Et puis je pense que c'est quelqu'un de conviction qui, bon, ça me plaisait quoi. Ceci dit, les électeurs ont choisi François que je connais aussi très bien, et bon, donc c'est devenu notre candidat, c'est devenu le mien. Je vais donc voter pour lui parce que moi, ma préoccupation surtout, c'est qu'il y a un changement au niveau de la présidence de ce pays.
Hein, comment vous les avez vécu ces années Sarkozy là ?
Bah, un peu c'est comme une... comment dirais-je ? Je les ai vécues un petit peu aussi par le prisme de Catherine, qui elle a vécu ça comme un parlementaire d'opposition. Et je sais que ça n'a pas été du tout facile pour elle, hein, parce que là, il y avait vraiment une machine de guerre en face et qui a s'ébroyé les choses. Moi, un peu détaché, très occupé par les associations. Bon, c'était un peu c'était une immense kermesse quand même. Hein. Il est très drôle aussi. Hein. Quand on veut essayer de prendre un peu de recul. Bon, pas pour pas beaucoup nos, hélas, pas pour la majorité de nos citoyens, mais ça a été la kermesse quand même. Hein. Bon, je plaisante un peu. Mais bon, moi, je viens d'École normale et de l'UFM. Hein, j'ai encore des amis qui travaillent, quoi. Bon, je les vois très malheureux, quoi. Hein, parce que bon, même s'il fallait réformer cet outil qui formait les enseignants, je suis d'accord, mais de là le casser, à laisser les gens dans un tel désarroi. Je viens de parler de l'enseignement parce que j'en viens, mais quand je vois aussi des gens là de l'hôpital, quand je vois on peut faire tous les secteurs, quoi, ils sont cassés, on les casse les uns après les autres. Et surtout, on voit pas par quoi ça va être remplacé. Moi, il me semble que ce pays est toujours un pays où on crée de la richesse, même si la croissance n'est pas ce qu'elle a été pendant les 30 glorieuses. C'est toujours un pays où on crée de la richesse. C'est toujours un pays. Je pense qu'une grande partie de cette richesse a quitté le monde du travail pour aller vers le monde de la rente, hein, pour reprendre des cours. Je pense que c'est 15% de la richesse qui est partie du monde de l'entreprise et du travail vers le monde de la rente. C'est énorme. Hein. Alors je pense qu'il y a... Je pense qu'il faut rééquilibrer les choses, quoi. C'est pas possible d'avoir un boulot et de dormir dans sa bagnole. C'est pas possible. Bon, en plus, le logement en France est terriblement... Moi, je vis cette société par par la consommation. Hein, je vis ces difficultés au quotidien, si vous voulez. Hein, en France, ça coûte deux fois plus, voire trois fois plus dans les grandes villes, plus cher en France de se loger qu'en Allemagne. Hein, c'est trois fois plus cher à Paris qu'à Berlin. Et dans l'ensemble du pays, c'est deux fois plus cher. Donc, bon, lorsque vous enlevez les loyers, lorsque vous envoyez toutes, quand vous enlevez toutes ces dépenses contraintes, hein, le reste à vivre, il est dérisoire. Il est dérisoire pour beaucoup de gens. Quoi. Voilà. Et bon, je pense que là, c'est une injustice. Et j'espère que le futur président, j'espère qu'il sera François Hollande, et j'espère qu'il va un petit peu corriger ce type d'injustice. Quoi. Il y a à rééquilibrer la répartition de la richesse, quoi, il me semble.
Alors il y a un ex-socialiste qui fait parler un peu de lui, là, c'est Mélenchon. Comment vous voyez ce phénomène ?
Alors bon, d'une part... Bon, il y a le fond et la forme. Sur le fond, je suis pas trop d'accord. Bon, enfin, bon, je passe. Sur la forme, il y a des choses très... sur la forme, je suis pas d'accord. Sur le fond, il y a des choses très intéressantes. Et en particulier, j'étais très surpris de voir Jacques Généreux, hein, qui a été... que je connais bien, hein, puisque c'est un invité régulier de l'Université pour tous. Et quand j'ai vu Jacques, en fait, s'atteler à tout le travail et à tout l'aspect économique, je vous avouer que ça m'a un peu perturbé. J'ai beaucoup d'estime pour Jacques Généreux. Bon, le problème, c'est qu'on ne l'entend pas beaucoup. Alors bon, c'est vrai qu'il est au-delà de deux chiffres. Hein. Bon, là aussi, il y a des choses incompréhensibles. Bon, apparemment, il a siphonné les Verts. Bon, ce qui est incroyable, parce que quand on voit les deux programmes, c'est incroyable, quoi. Bon, Eva Joly est à deux, donc il y a une partie, paraît-il, hein. Bon, il faut aussi se méfier de tout ce qu'on dit. Bon, bah, il y a le PC, il y a une partie des Verts. Bon,
asséché les candidatures d'extrême gauche.
Voilà,
aussi.
Voilà. Bon, alors, bon. Donc, ça, je comprends les 12 ou 13% qu'il fait aujourd'hui, quoi, hein, parce qu'ils étaient là avant, chez les Verts, chez la NPA, chez le PC, voilà, quoi. Bon, pour l'instant, il a aussi siphonné un peu, excusez-moi, il a aussi siphonné un peu de voix au PS, hein, ça c'est clair. Bon, pour l'instant, il n'en a pas siphonné trop, et j'espère qu'il n'en siphonnera pas trop. Voilà.
Est-ce que c'est pas un atout d'une certaine manière pour le deuxième tour?
Oui,
pour,
c'est clair. François, ah oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bien sûr. Non, mais ça c'est pas bon. C'est pas. Donc,
vous avez été adjoint à l'environnement. Oui. Bon, on connaît votre sensibilité écologiste dans la famille socialiste. Est-ce que vous trouvez que François Hollande est assez écologiste?
Il pourrait l'être plus. Ça c'est clair. Bon, il a quand même fait des avancées. Bon, le problème, c'est qu'il est dans une situation très difficile. Hein, bon, parce qu'il doit absolument arriver quand même. Il doit être là au deuxième tour, quoi. Donc, il doit faire. La campagne de premier tour pour un candidat socialiste n'a rien à voir avec la campagne du deuxième tour. Bon, ça a été la grande erreur de Lionel Jospin. Il l'a payé cher. Quoi. Tout le monde l'a payé cher.
Eh bien, Gérard Barbier, on va...
Que c'est court.
Ben oui.
Écoutez, je reviendrai dans 10 ans.
Ben non, il faut revenir plus dans un temps, dans un laps de temps plus bref quand même.
En tout cas, merci. J'étais très content de passer cette heure.
Eh bien, on va terminer avec un dernier choix musical.
Ouais. Bah,
Otis Redding.
J'avais 20 ans.
Ah oui.
C'était hier.
Ouais. Au revoir, Gérard Barbier.
Au revoir. À bientôt, alors.
À bientôt.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh.
sitting on a dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of a bay, wasting time.
C'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, le rediffusion le mercredi à 16h30 et à 23h, et sur le net radiopfm.com. À la semaine prochaine, salut !